C'est la journée mondiale de l'eau aujourd'hui et je trouvais que c'était tellement important qu'on en parle un petit peu, vous et moi. On dit, entre autres, qu'au cours des prochaines années, ça va être un enjeu majeur, si ça ne l'est pas déjà. Entre autres parce que le Canada, on prévoit, perdra 80 % de ses glaciers de montagne d'ici les 50 prochaines années. On sait que le pergélisol au nord du Québec fond. À vue d'œil quasiment. Et bref, au fil du temps, ça va finir par assécher les lacs arctiques. Ça va faire en sorte que des milieux humides vont disparaître. Et je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, on est champion mondial au Canada de la destruction des forêts vierges. Et toutes ces informations-là, on peut les trouver dans un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt qui s'intitule « À qui appartient l'eau ?». Et c'est une question que je trouve qu'on se pose pas assez parce qu'on le sait, l'eau est considérée comme de l'or bleu. Hein. On le sait, ça fait plusieurs années que cette ressource-là, qui devrait être une ressource commune, qui appartient à tout le monde finalement, est monnayée et vendue aux plus offrants. À qui appartient l'eau a été écrit par Maude Barlow et la préface du livre a été écrite par Rebecca Pétrin, qui est directrice de l'organisme Au Secours. Elle est avec moi. Bonjour, Madame Pétrin.
Bonjour, Madame Maréchal.
Vous avez fait cette préface parce que c'est un gros dossier que celui de l'eau et ce que vous nous dites, c'est il faut vraiment que tout le monde s'y intéresse et s'en occupe. C'est une ressource qui est en train d'être de nous échapper. Expliquez un peu le contexte dans cette journée mondiale de l'eau.
Oui, effectivement, vous nous avez dit qu'on est les champions mondiaux de la destruction des forêts naturelles. On est aussi les champions mondiaux, en fait, en consommation d'eau. Donc, le Canada a une moyenne de 329 litres d'eau par jour par personne de consommer, ce qui nous fait de nous le deuxième plus gros consommateur d'eau au monde. Et la province du Québec est dans les plus élevés aussi là, au travers du pays. On a une moyenne de 424 litres par jour par personne. Donc, les Nations unies ont décrété qu'en bas de 20 litres par jour, en fait, ce n'était pas suffisant pour survivre. Donc, on peut voir qu'avec nos 424 litres, on est vraiment au-delà de ça. Parallèlement à ça, comme vous le dites, la fonte des glaciers et puis la fonte du pergélisol fait qu'on perd une ressource inestimable en eau douce, en eau potable qui s'écoule vers les océans. La destruction des milieux humides ne permet pas non plus de régénérer nos nappes d'eau souterraines. Et vous avez probablement appris dans le passé qu'on est propriétaire de 20 % de la ressource en eau douce au Canada.
Ouais.
C'est en fait le 1/5 de la ressource mondiale. Par contre, ce qu'il faut savoir de cette ressource-là, c'est qu'il y en a une grande partie, en fait, qui n'est pas utilisable, qui n'est pas accessible. Donc, on parle des glaciers, on parle de l'eau qui est enfouie trop profondément ou trop loin. Si on garde seulement le pourcentage de l'eau qui est accessible, on est à 6,5 % de la ressource mondiale. Et si on garde que l'eau accessible, en fait, qui s'écoule vers le sud, là où, en fait, 90 % de la population du Canada est, on est dans l'ordre du 2,6 % de la ressource en eau mondiale. Donc, est-ce que l'eau est accessible et à profusion au Canada? Malheureusement, la réponse est non. Et avec notre vitesse de consommation et la vitesse à laquelle la ressource diminue, oui, il faut craindre que dans un avenir quand même assez rapproché, on va vivre des pénuries d'eau.
Est-ce que c'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'il n'y ait pas tant d'eau potable accessible? On a souvent l'impression, nous ici, c'est-à-dire qu'on le voit avec notre bout de lorgnette, on se dit, nous, on en a de l'eau. C'est comme l'hydroélectricité qui fonctionne avec de l'eau, d'ailleurs. On en a beaucoup, c'est pas un problème pour nous, donc on n'a pas tendance à faire attention. C'est un peu la question, d'ailleurs, que j'ai envie de poser aux auditeurs. Est-ce que vous faites attention un peu plus aujourd'hui? Parce qu'on en parle de plus en plus quand même, ne serait-ce qu'à cette émission. On essaye de conscientiser les consommateurs que nous sommes à moins dépenser d'eau. Au fil des ans, d'ailleurs, il y a des organismes, dont le vôtre, Au Secours, qui nous ont aussi appris certaines choses. Par exemple, on évite de tirer la chasse pour rien, une meilleure gestion des égouts aussi. Donc, je posais la question aux gens, est-ce que vous faites attention à votre consommation d'eau? Quand vous ouvrez le robinet, est-ce que vous y pensez? 514-790-9850 pour nous joindre à Montréal. Et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Je sais qu'il y a des projets pilotes aussi au Québec en ce moment où les citoyens sont appelés à mesurer la consommation d'eau. Est-ce que vous pensez, Mme Pétrin, que ça passe par là? Parce qu'en même temps, je lisais le livre, puis une chose qu'on rappelle peut-être pas assez souvent, c'est que oui, c'est bien beau de pointer du doigt le consommateur résidentiel, Mais c'est souvent les grandes entreprises qui sont les plus grandes consommatrices d'eau.
Oui, effectivement. Si on regarde les données mondiales, en fait, 70 % de l'eau qui est prélevée de l'environnement est utilisée à des fins agricoles. Et puis, 20 % dans le milieu industriel, il reste qu'un maigre 2 % dans le résidentiel. Les statistiques au Canada sont un peu différentes parce qu'on est beaucoup plus efficace au niveau de l'agriculture. Par contre, il faut savoir que si on veut diminuer notre impact sur l'ensemble de la ressource mondiale en eau, le choix des aliments qu'on achète a un impact majeur. Donc, si on peut penser à des fraises qui poussent en Californie dans un désert, ça va nécessairement nécessiter plus d'arrosage que si on achète des légumes en fait locaux ici de saison. Par la suite, c'est vrai que dans la stratégie en fait d'économie d'eau potable que le Québec, en fait le gouvernement du Québec a mis en place dans les dernières années, il est clairement stipulé que c'est recommandé de faire de la tarification volumétrique, donc au mètre cube d'eau utilisée, dans les instituts, commerces et institutions qui sont les plus gourmands en fait en matière d'eau au Québec. Et dans le niveau résidentiel, ce n'est pas, il n'y a aucune étude qui a vraiment démontré que c'était efficace, en fait,
de faire payer l'eau aux gens, finalement,
oui.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a pas de tarif, en fait, qui va permettre aux gens qui sont des grands gaspilleurs d'eau d'arrêter de gaspiller l'eau et en même temps de continuer à rendre accessible cette ressource-là aux ménages qui sont les plus vulnérables. Parce que c'est ça l'importance dans tout ce débat-là, c'est que l'eau, on ne peut pas s'en passer. C'est une richesse qui est vitale et elle doit demeurer accessible à l'ensemble de la population.
Mais voyez-vous, c'est ça, Mme Pétrin, qui à chaque fois m'interroger et m'inquiète un peu, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de faire attention à la consommation d'eau, à notre consommation personnelle, on pointe beaucoup du doigt les gens, les consommateurs moyens, les gens à la maison, les familles dans le résidentiel. On oublie, comme on vient de dire, un peu les grands consommateurs industriels ou agricoles. Et j'ai l'impression que ce qui nous pend souvent au nez, c'est des compteurs d'eau dans nos maisons, parce qu'on va, c'est par là qu'on va. On cherche tellement des façons de faire payer plus le citoyen, là, parce que les villes cherchent de l'argent, que je crains que ça nous amène à mettre des compteurs dans les résidences, alors que dans le fond, c'est peut-être pas là l'urgence. Quelle est votre position là-dessus, vous, à Au Secours?
Alors, on est tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Ça n'est absolument pas l'urgence et c'est vraiment déconseillé pour maintenir l'accès universel à l'eau que de tarifier l'eau en milieu résidentiel. Nous, on pousse vraiment pour la tarification dans les instituts, commerces et institutions. Et le tarif qui doit être facturé aussi à ces secteurs-là doit être représentatif de ce que ça coûte en réalité aux municipalités. Et dans ce coût-là, doit être calculé et le traitement de l'eau potable et l'assainissement des eaux usées. Car on le sait, c'est une des sources les principales, en fait, de contamination de nos eaux au Québec. Ouais. C'est le déversement des eaux usées parce que nos installations sont déficientes, il manque de financement, mais on donne un peu l'eau dans les industries et commerces parce que le tarif, en fait, représente pas l'ensemble de ce que ça coûte. Et cette facture-là, ben, elle est évidemment donnée aux contribuables là, qui payent leur facture, leur taxe municipale.
Ouais, exactement. Il y a beaucoup de choses finalement. Il y a toute la question aussi des pertes d'eau. Vous parlez des services d'aqueduc, les réseaux d'aqueduc. On peut en parler longuement nous à Montréal où on l'a vu. Plus ça va, plus il y a des bris d'aqueduc qui sont à peine colmaté, là, sauf quand la rue s'effondre en plein milieu cœur du centre-ville, puis on l'a vu au fil des dernières années. Il y a eu tellement de laxisme. En ce moment, là, moi, c'est fou, là. Il y a des gens qui m'écrivent. On nous a dit dernièrement, à Hochelaga-Maisonneuve, une partie de Ville-Marie, il y a des conduites qui sont composées de plomb, où les gens, donc, désormais, là, depuis un mois, ils ont reçu un avis, ils ne peuvent plus boire l'eau du robinet. Il y a des gens qui m'écrivent ça, ils sont très inquiets de la situation. Fait qu'il y a tout ça, toute la gestion des réseaux d'aqueduc aussi, Rebecca Pétrin.
Oui, effectivement, il y a eu un gros laisser-aller là dans les derniers 50 ans sur l'entretien du réseau d'aqueduc à Montréal et dans d'autres villes. Là, le problème du plomb, c'est un problème qui est répandu dans toute la province. Il y a un plan d'action qui a été déployé par le gouvernement pour recenser justement dans les instituts scolaires, donc toutes les fontaines d'eau et autres, la présence du plomb. On sait qu'à la ville de Montréal, ils ont aussi déployé un plan d'action. ils seront remplacés petit peu par petit peu. C'est sûr, c'est le problème, en fait, c'est que quand on n'investit pas et qu'on maintient pas nos services, après, le rattrapage prend énormément de temps. Nous, on continue à recommander l'utilisation de l'eau du robinet. L'eau embouteillée n'est pas la solution parce que, de toute façon, elle n'est pas de meilleure qualité. Par contre, l'utilisation d'un filtre peut être une bonne option là, pour les résidences qui sont susceptibles d'avoir du plomb.
Ça marche, ça? Ça filtre bien les résidus de plomb qu'il pourrait y avoir dans l'eau? Oui.
Oui, il faut s'assurer d'avoir un filtre. Donc, généralement, le commerçant spécifie les matières qui sont enlevées par le filtre, mais généralement, ça fonctionne bien, oui.
On a Pauline au bout du fil. Bonjour, Pauline. Est-ce que vous faites attention à votre consommation d'eau?
Oui, moi, à chaque fois que j'ouvre le robinet, là, je me sens toujours coupable.
Oui.
J'haïs gaspiller l'eau. Alors, moi, j'aime l'eau très froide. Mm. Alors, au lieu de faire couler l'eau 5 minutes pour l'avoir froide, j'ai des litres de vin, des anciens litres de vin, que je remplis avec de l'eau, puis j'en bois 3-4 litres par jour.
Mm-hmm.
Je ne prends pas de bouteilles de plastique. J'ai horreur de ça. Je me sens tellement coupable de gaspiller l'eau qu'à chaque fois, je pense à M. David Suzuki.
Ah, ben oui, c'est ça. Donc, vous êtes conscientisé, vous diriez que vous l'avez toujours été, ou c'est depuis les dernières années, parce qu'on en parle un petit peu plus, on parle plus d'environnement, de changement climatique, et il faut s'intéresser à la question de l'eau, parce que c'est une ressource qui n'est pas inépuisable?
Ben, j'ai toujours été fait attention à la nature, mais dernièrement, on voit beaucoup plus les conséquences de nos actions.
Mm.
Alors, on peut plus faire plus attention à ce moment-là.
Ben, merci beaucoup.
Mais moi, quand je vois un monsieur qui arrose le pavé, là, le trottoir avec sa hausse, là, je peux pas m'empêcher, il faut que je lui dise d'arrêter de faire ça.
Ah ouais, ben c'est oui, mais là on va avoir beaucoup des gens qui vont vouloir nettoyer l'asphalte parce que le printemps arrive là, ben c'est sûr. Merci.
C'est bien malheureux.
Mais oui, Samuel, c'est un merci à vous Pauline. Samuel, c'est un peu aussi le commentaire que vous vouliez faire.
Oui, c'est ça exactement. Moi, je pense que les gens, c'est déjà une bonne solution là, d'arroser notre eau peut-être avec de l'eau qui est non potable ou une autre solution pour nettoyer ton asphalte et le balai. Il y a plein de solutions. Moi, je fais pas vraiment attention à ma consommation d'eau. Je vous dirais que je fais plus attention à ma consommation d'eau chaude. Si je verrais, tu sais, que le gouvernement, il y aurait plus d'investissements à ce niveau-là, ou que, tu sais, les grands joueurs feraient plus attention, moi, ça me donnerait plus le goût de faire attention, moi, personnellement.
Ouais, c'est sûr. Puis c'est fou comme, merci, Samuel, c'est fou comme au Québec, on en parle pas tellement de l'industriel parce que, puis on aura l'occasion de poursuivre là-dessus avec mon invité Rebecca Pétrin. Mais Rebecca, c'est vrai, quand on a une industrie comme celle, par exemple, tout ce qui est acier, par exemple, les pâtes et papier, ça prend beaucoup, beaucoup d'eau, là.
Oui, ça prend beaucoup d'eau et ça en rejette aussi énormément. Donc, c'est des coûts que notre société doivent calculer. Certaines des industries ont leur propre système en place, et encore là, ces systèmes-là sont évalués, en fait, sur l'efficacité par les municipalités sur place. Donc, c'est encore nous qui devons contrôler tout cela.
Les alumineries, ça prend pas mal d'eau, ça aussi.
Oui, les mines aussi sont des grands consommateurs d'eau. Et c'est ça, c'est toujours le problème, c'est que le prix qui est payé pour cette ressource-là ne représente pas du tout, en fait, l'importance que la ressource elle a. Si on pense juste aux embouteilleurs, en fait, donc les grands embouteilleurs Nestlé, Coca-Cola et autres, on en a 7 usines présentement d'embouteillage au Québec. Le tarif, en fait, qu'il leur est demandé, c'est 7 sous pour 1000 litres d'eau prélevée après 75 000 litres prélevés journaliers. Donc, on peut quasiment leur dire que notre eau, en fait, leur est donnée pour la commercialiser. Puis après, ces bouteilles-là qui sont transportées un peu partout au travers de la province, même à l'international, sont vendues à des prix complètement fous là, par rapport aux 7 sous pour 1000 litres qui a été payé au gouvernement du Québec. Puis ça, ben, cette ressource-là, elle appartient à l'ensemble des Québécois.
Ouais. Mais les gouvernements, malheureusement, au fil des ans, ont accepté de la monnayer. Et là, on a envie de dire, ben, en quel nom, de quel droit est-ce qu'on a donné notre accord? Pas vraiment. Je trouve que c'est intéressant de se poser cette question-là. À qui appartient l'eau? On va s'arrêter ici. Très courte pause. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que vous faites attention à votre consommation d'eau? Et plus largement, êtes-vous d'accord pour qu'on la monnaye, cette ressource? On a souvent mis ça de l'avant au fil des ans. On dit, oui, mais ça va nous aider. On va donner ça en partenariat privé-public. Là. Ça se fait, on l'a vu dans d'autres provinces également, pas qu'au Québec. Puis là, on dit, ben, au moins l'industrie privée aide à financer des infrastructures que les villes n'ont plus les moyens de se payer. Mais il y a des risques à ça. Alors, dans la grande région de Montréal, vous pouvez m'appeler au 514-790-9850, 1-866-790-9850. Jérémy, qui est au bout du fil, bonjour. Vous êtes technicien en traitement d'eau, Rémi?
Oui, exactement.
On vous écoute? Vous vouliez nous dire quoi par rapport à ça?
Avant, moi, c'était l'eau, tu sais, elle est transparente, fait que d'après moi, elle est potable. Mais finalement, en travaillant là-dedans, je me rends compte qu'il y a plein de choses dans l'eau qui est nuisible pour la santé.
Ouais.
Fait qu'en la traitant, je veux pas, on gaspille un petit peu d'eau, c'est normal. Je me sens un peu coupable des fois de dire, Caroline, on gaspille un peu d'eau, mais on n'a pas toujours le choix, surtout quand on parle des puits. Les puits, ils ont vraiment toutes sortes de choses. Le fer, la manganèse, qui est très dangereux pour le cerveau des jeunes enfants. Mmh. On parle aussi du calcaire, qui peut être quand même assez élevé. Tu sais, il peut avoir quand même beaucoup de problèmes. Fait que des fois, je me sens comme un super-héros d'aider les clients qui ont de l'eau très difficile.
Oui, c'est vrai, surtout quand on...
Quand on voit la bactérie.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a Marc qui m'écrit. Il dit, lui, il n'en revient pas qu'on parle encore de filtres. Tout à l'heure, mon invité disait, bon, il y a moyen d'avoir des filtres pour mettre là, à son robinet pour pouvoir quand même boire l'eau potable municipale. Lui dit, il y a quand même d'autres choses aussi. D'ailleurs, il dit, l'usine d'épuration à Montréal est une des seules à ne pas avoir mis en place un système d'irradiation aux UV. C'est vrai qu'on peut avoir des lampes UV maintenant qui font en sorte qu'il n'y a plus de bactéries dans l'eau. Vous êtes au courant de ça, Rémi, j'imagine? Ouais.
Oui, exactement. Les UV aujourd'hui, là, c'est vraiment magique parce qu'avant, la technique, c'était on injectait du chlore dans l'eau.
Ouais.
On le faisait reposer dans une tank. Après ça, on le déchlorinait. On enlevait le chlore, finalement. Puis après ça, l'eau était consommable. Mais là, on utilisait du chimique, ce qui est vraiment pas une bonne technique. Maintenant, avec les UV, on n'utilise aucun chimique. C'est meilleur pour l'environnement aussi parce qu'on a juste un UV à changer à chaque année.
Oui, exactement. C'est peut-être un petit peu plus cher que à l'achat, disons, mais moi, je peux vous dire, j'en ai un filtre UV, là, puis j'ai plus d'inquiétude. J'ai l'impression que ça garantit une certaine pureté de l'eau. Merci beaucoup, Rémi. On a Fred au bout du fil. Bonjour.
Bonjour, Isabelle. Bon matin.
Merci. Vous aussi, Fred?
Ah, l'eau, c'est quelque chose je me questionne beaucoup sur l'eau qui circule dans les tuyaux, dans les villes. On ne sait pas trop non plus ce qui se ramasse dans ça. Oui, les filtres et tout ça. Moi, je suis autonome en eau de pluie. Donc, j'ai 12 000 litres d'eau qui circule, qui est filtrée par osmose, qui est le filtre UV.
Vous récoltez l'eau de la pluie, c'est ça?
Oui, exactement. Par les toits, par les gouttières, par des systèmes de pré-filtration. Puis ensuite, on enlève tout ce qui n'est pas eau parce que, tu sais, en même temps, il y a beaucoup de produits chimiques qui sont... déversé dans le ciel. Excusez-moi, je suis un dangereux conspirationniste, mais il y a beaucoup de choses qui contaminent l'eau, l'eau de ruissellement, beaucoup de...
Ah, c'est sûr.
En tout cas, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit penser, puis même les villes, à des endroits, on n'a pas le droit de récolter d'eau de pluie. Fait qu'il faut faire ça un petit peu à notre manière, à boire de l'eau pure. C'est très rare de nos jours.
Puis exactement.
Par la pluie, on peut en récolter une bonne partie, puis les sécheresses qui s'en viennent, on peut les combattre avec une réserve d'eau sur notre terrain très facilement.
Ah oui, merci beaucoup, Fred. C'est vrai, dernièrement, j'étais en Estrie, puis un ami me racontait qu'il venait de boire l'eau qui venait couler de la montagne, du petit ruisseau, puis j'étais tellement étonnée parce que ça nous paraît quelque chose de tellement unique d'être capable de boire l'eau directement sans traitement des eaux, pouvez-vous croire? Puis il y a sans parler de tous ces pays dans le monde où l'eau est contaminée. On ne le dit pas assez parce qu'on s'intéresse surtout à nous, mais c'est bien des fois de tourner aussi notre regard vers les autres. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui boivent de l'eau contaminée par des excréments, imaginez. Et il y a là-dessus pas mal de monde qui meurt aussi de diarrhée causée par de l'eau contaminée. Il y a plein d'endroits. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Brésil dans des favelas où il n'y a même pas de toilettes, là. Les enfants, c'est épouvantable, des conditions de vie comme ça. Alors, l'eau doit rester un bien commun. Ce n'est pas une marchandise comme les autres. On a Fabien qui est avec nous. Est-ce que vous êtes préoccupé par la marchandisation de l'eau, Fabien? Parce que c'est ça aussi là, qui est inquiétant.
Oui, je suis préoccupé par ça. Puis aussi, tu sais, on dit faire attention, nous, ouais, les consommateurs dans notre maison. Mais quand on voit tout ce qui se passe dans les compagnies,
ouais,
quand tu vois que Coke vide des nappes phréatiques en Inde complètement, je fais là, on devrait commencer par les compagnies, les structurer, puis eux, qu'eux autres payent. Puis ensuite, on va aller avec les petits. Je pense que ça donne rien de commencer tout de suite avec nous autres.
Mm-hmm. Exactement, mais ça, faut le dire, parce que, voyez-vous, mon technicien François me racontait pendant la pause qu'à l'Ange Gardien, ils payent leur eau, ils ont un compteur d'eau. Fait que ça a déjà commencé, ça, l'histoire de dire on va faire payer les gens qui sont propriétaires de résidences, qui, eux, à leur tour, vont le passer à leurs locataires. Donc, et par exemple, une ville comme Montréal, si vous êtes propriétaire, vous voyez sur votre facture de taxe, vous voyez taxe d'eau. Mais là, c'est au-delà de ça. C'est en plus de la taxe d'eau que vous payez en ce moment, mais ça va être à la consommation. Et ça, ben il y a des dangereux précédents qui s'installent ici et là au Québec sous prétexte de vouloir faire des projets pilotes pour mesurer comment on consomme d'eau. C'est une bonne idée de le faire, mais ça serait bien qu'on le fasse là aussi où on consomme beaucoup. Peggy, bonjour.
Oui, bonjour Isabelle, ça va bien?
Oui, on vous écoute, Peggy, sur l'eau.
Oui, mon petit truc à moi que j'ai découvert qui fonctionne très bien pour le lave-vaisselle, au lieu de prendre les cycles réguliers qui durent très longtemps, prennent beaucoup d'eau chaude,
ouais,
prennent beaucoup de... moi, je rince ma vaisselle grossièrement à l'eau froide, mm-hmm, avant de la mettre au lave-vaisselle, puis je prends le cycle pour l'hiver. Et la vaisselle vient très, très propre, ça prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de chaleur.
Il y a même des lave-vaisselle, c'est quasiment... Il y a même des laveuses, c'est quasiment pas l'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est pas de l'eau, c'est,
oui,
une autre technologie qui lave. C'est fascinant quand même. Fait qu'on fait des grands progrès technologiques. Merci, Peggy. On a José avec nous. Bonjour, José.
Oui, je l'écoute. Oui, bonjour.
Oui, on vous écoute.
Oui, bonjour, Isabelle. Oui.
Bonjour, José.
Alors, moi, écoutez, j'achetais beaucoup d'eau en bouteille. J'achetais des caisses d'Evian et tout ça.
Ouais.
J'ai réglé mon problème. J'ai acheté un système de filtre Berkey, B-R-K-E-Y. Ça, c'est un filtre qui ne fonctionne pas à l'électricité et les filtres, vous les changez aux 6000 gallons. Donc, ça, les filtres, vous les lavez.
Uh-huh.
Ça peut faire au moins 6 ans facile. Et puis, ça m'a coûté 350 $. Je prends l'eau du robinet, je mets ça, ça filtre. J'ai de la bonne eau, ça enlève tous les virus, les parasites, les pesticides, tout ce qu'il y a dans l'eau, puis ça traite même l'eau non potable. Alors, j'économise et j'ai de l'eau qui est bonne en tout temps.
Bien, merci. Alors, beaucoup. Merci, José, de votre truc. Rebecca Pétrin, directrice de l'organisme Au Secours, qui a préfacé le livre « À qui appartient l'eau? Faire barrage à la privatisation d'une ressource vitale ». C'est écrit par Maude Barlow, qui est une grande activiste en matière de protection de l'eau. C'est publié chez Éco-Société. Je vous le recommande parce que je pense que c'est notre devoir de citoyen d'être au courant de cet enjeu-là. On dit que c'est le nouvel or bleu. Ça fait déjà un petit moment qu'on s'inquiète de ça. En fait, la raison pour laquelle Rebecca Pétrin, Maude Barlow a écrit ce livre-là, c'est qu'elle s'était rendue compte au moment où Brian Mulroney était premier ministre du Canada en 85, vous savez, hein, ça fait longtemps, que dans le projet d'accord de libre-échange avec les États-Unis, on disait l'eau, y compris l'eau minérale, la glace et la neige, peuvent faire partie des biens qui peuvent être vendus. Et ça, ça l'a frappé. C'est pour ça que Maude Barlow a décidé de s'impliquer là-dedans. Probablement vous aussi, sans doute, Rebecca.
Mais en fait, c'est vrai ce que vous dites. Puis on a la chance d'avoir au Canada la défendresse numéro un du droit d'accès à l'eau. Donc, Maude Barlow a passé sa vie, en fait, à défendre l'accès universel à l'eau. Et puis, en fait, le livre « À qui appartient l'eau » est un peu une historique, justement, de cette lutte-là qui a mené jusqu'à la création du projet « Communauté bleue ». Donc, en 2010, cette année, le dixième anniversaire, elle est allée aux Nations Unies pour faire reconnaître l'eau comme étant un droit humain à l'eau et à l'assainissement des eaux usées également. Et puis, quand elle est rentrée au Canada, c'était sous le gouvernement Harper. Le gouvernement Harper a refusé, en fait, d'appuyer cette motion-là. Donc, ils se sont abstenus de voter. Et ça nous a tellement fâchés qu'au Canada, propriétaire d'une si grande ressource en eau douce qu'on n'accepte pas, en fait, de reconnaître ce droit-là, qu'elle a décidé, en fait, de mobiliser les citoyens par la base. Donc, le projet de Communauté bleue, en fait, c'est de faire des certifications par les citoyens, pour les citoyens, envers leur municipalité. Et puis, l'objectif, justement, c'est de reconnaître ce droit-là, de freiner la privatisation des services d'eau et la commercialisation de l'eau par le bannissement des bouteilles d'eau, en fait, de l'eau embouteillée. Donc, je vous recommande fortement cette vidéo.
Ah oui, oui, oui. Mais ça, c'est vrai que c'est frustrant un peu parce qu'on se dit, ma foi, on est en train de passer à côté de quelque chose. Il y en a qui décident à notre place puis on n'aime pas ça. Entre autres, il paraît qu'il y a des entrepreneurs étrangers qui ont un œil sur l'eau de nos grands lacs pour l'acheminer vers des régions plus arides, entre autres aux États-Unis. Et là, évidemment, il faut qu'on s'inquiète de la baisse du débit d'eau du fleuve Saint-Laurent. Ou encore, il y en a même qui disent, on va dévier les glaciers de l'Arctique vers le Moyen-Orient. Il y a toutes sortes de projets. Une chose est sûre, c'est que on en envoie aussi de notre eau. Et le projet Communauté Bleue, c'est un magnifique projet. On souhaite beaucoup de communautés bleues autour de nous pour pouvoir protéger cette ressource-là. On s'en parlera. Merci beaucoup, Rebecca Pétrin, directrice de l'organisme Eau Secours. Je vous rappelle, c'est la Journée mondiale de l'eau. Alors, il faut y penser un peu. On a l'impression que c'est... Ça coule de source, mais il y a beaucoup d'enjeux là-dedans, comme on vient de le voir. On va s'arrêter ici, très courte pause. La fièvre du vélo vous a-t-elle rattrapée? Et ça va être quelque chose, se trouver un vélo, si vous n'en avez pas. On a avec nous Louis Garneau, tout de suite après ceci.